Voilà. Mais aujourd'hui, place à la physique des particules. Hein. Donc, puisque le titre de la conférence est « La nature du vide », nous avons le plaisir donc, d'avoir aujourd'hui Michel Spiro. Michel Spiro est directeur de l'INDP3. Alors, INDP3, ça signifie Institut National de la physique des nucléaires et des particules. C'est ça, la physique des particules, voilà, ça fait donc le compte.
Oui, physique des particules, ça fait 3P, et national et nucléaire, ça fait 2M.
Voilà, donc c'est un institut très important qui, effectivement, conduit et poursuit toutes les recherches dans ce domaine au niveau national. Mais Michel Spiro a une carrière qui va au-delà de cet hexagone, puisque son travail, il l'a poursuivi en particulier au CERN, et il a été parmi ceux qui, auprès de Carlos Rubia, a contribué à la découverte des particules W et Z. Donc c'est quand même pas rien, pour lesquels les équipes ont obtenu, enfin, Rubia en particulier, le prix Nobel de physique. Ensuite, il a participé à d'autres expériences tout aussi prestigieuses, dont la recherche des neutrinos solaires, détection des neutrinos solaires. Et également, en liaison avec ce qu'on fait à l'Institut d'astrophysique, la recherche de particules Eros, des particules qui seraient une composante non négligeable de la matière noire.
Des objets compacts astrophysiques.
Des objets compacts, tout petits, comme ça. Voilà, donc voilà pour son travail. Et aujourd'hui, donc, je lui laisse la parole tout de suite pour nous parler de la nature du vide. Merci.
Merci bien, Daniel. Je dois dire que je suis très impressionné d'avoir un amphithéâtre plein pour entendre parler du vide. A priori, c'est un sujet, on pourrait dire que c'est assez creux et qu'il n'y a rien à dire sur le vide, c'est ce qu'on aurait pu penser. Eh bien, je vais essayer de vous montrer que le vide, ça a accompagné des bouleversements scientifiques majeurs, le passage de la physique, déjà dans la physique classique, à la fin de l'époque de la physique classique du 19e siècle, la question du vide était une question centrale, notamment le vide était-il vide ou y avait-il de l'éther dans le vide. Ensuite, on est passé à la théorie de la relativité. De nouveau, le vide a été une question centrale à travers la propagation de la lumière dans le vide et la vitesse constante de la lumière et le bouleversement sur l'espace et sur le temps qu'a amené la théorie de la relativité et donc la compréhension du vide. La mécanique quantique introduit des ondes partout, même pas attachées à la matière. Les électrons sont des ondes, donc remplissent tout l'univers. Un électron remplit tout l'univers, donc il y a déjà la notion de vide va être fortement bouleversée. Et finalement, quand on combine la mécanique quantique et la théorie de la relativité, on obtient des fluctuations quantiques du vide qui peuvent donner un espèce de vide qui fourmille de particules pendant des temps très courts. Et plus les temps sont très courts, plus le vide fourmille de particules. Il apparaît comme un quasi-milieu, j'en parlerai. Et les particules réelles se propagent dans ce quasi-milieu fourmillant, lequel quasi-milieu donne une certaine viscosité, et c'est ça qui donne une masse aux particules. C'est la théorie moderne de la physique des particules. La masse des particules n'est plus une propriété intrinsèque, c'est une propriété dans la manière dont les particules interagissent avec ce vide fourmillant. Et ce vide fourmillant, il est sensible aussi à la nature, bien sûr aux lois physiques et à la composition de l'univers, et notamment, il est sensible, c'est un espèce de milieu sous-jacent. Il est sensible même à la température de l'univers, et on pense que le vide a pu connaître des transitions de phase. Et on est bien obligé d'imaginer maintenant que le vide possède une énergie. Alors comment mesurer cette énergie? C'est ce que je dirais à la fin. C'est que normalement, vous savez qu'on est sensible essentiellement à des différences d'énergie. On ne connaît pas l'énergie absolue d'un état. Ce qu'on voit, c'est des différences d'état, des différences d'énergie. Mais il se trouve que la gravité, elle, est sensible à l'énergie en valeur absolue. Et donc par la gravité, on peut voir si le vide a une énergie. Et les derniers résultats, c'est le dernier morceau du puzzle du vide, les derniers résultats cette fois-ci de cosmologie et non plus de physique des particules, ont montré que quand on regarde la lumière se propager sur de très grandes distances, on est obligé d'admettre que le vide possède une énergie. Et on en est donc maintenant à cette question, est-ce que ces fluctuations quantiques du vide dont j'ai parlé un instant, et je reviendrai là-dessus bien sûr, correspondent à l'énergie du vide que l'on observe par la cosmologie, par l'observation des étoiles à des très très grandes distances. Et c'est une des grandes interrogations. L'énergie du vide, on pourrait dire, c'est négligeable, c'est rien du tout. Ben non, on trouve que ce qu'on trouve actuellement, c'est que c'est la forme d'énergie qui domine la gravité, qui domine l'univers. Ça n'est pas la matière visible, ça n'est pas le rayonnement, ça n'est même pas la matière noire dont tout le monde vous a parlé jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Il semblerait que c'est l'énergie du vide qui triomphe. Alors on pourrait dire, bon, ben, la boucle est bouclée, maintenant on arrive à une compréhension du vide avec une énergie. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce que la valeur que l'on mesure, puisqu'on mesure quelque chose pour l'énergie du vide, n'a rien à voir avec les préjugés qu'on pourrait avoir par les calculs, même des calculs aux dimensions, que l'on peut faire avec la physique des particules. Il y a, alors soit l'énergie du vide devrait être zéro pour une raison qu'on ne comprendrait pas, mais si elle n'est pas zéro, on s'attendrait à ce qu'elle soit beaucoup, beaucoup plus importante que ça. Et on parle de 120 ordres de grandeur, c'est la grande énigme de ce qu'on appelle aussi la constante cosmologique. Et ça vous montre que la physique n'est pas terminée. Et comme la physique n'est pas terminée, je terminerai mon exposé pour vous montrer les grands projets de satellites notamment et de collisionneurs de particules qui devraient peut-être éclairer d'un œil nouveau le vide. Bien, donc je vais rentrer dans mon exposé, ça c'était un peu le plan, de la physique classique jusqu'aux questions qu'on se pose aujourd'hui. J'essaierai de tenir en 3 quarts d'heure, 50 minutes, de manière à ce qu'on ait du temps pour des questions, je ne sais pas quel est le format de ces... c'est à peu près ça, d'accord. De manière à ce qu'on puisse interagir un petit peu. C'est assez abstrait, hein, le vide, bien sûr, hein, il ne faut pas vous attendre, ce n'est pas facile à imager, d'ailleurs je ne savais pas par quelle couleur représenter le vide. Bon, là c'est du noir, vous voyez, donc il y aura beaucoup de noir dans cet exposé pour symboliser le vide. Bien, alors commençons cette épopée. Tiens, alors ça commence... Ah voilà. Bon, il y a des surprises encore. J'espère qu'il n'y en aura pas trop. Donc je vais essayer de vous parler donc la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. C'est le passage du vide classique au vide relativiste. Comme je l'ai dit, c'est une autre manière de discuter de l'évolution, de l'histoire de la physique, hein, à travers la conception du vide. Bien, alors on pourrait se dire classiquement, qu'est-ce que c'est que le vide? Ben, le vide, c'est là où il n'y a rien. Alors on peut essayer de pomper en laboratoire, on arrive à avoir des milliards de fois moins de matière que dans l'air ordinaire, mais malgré tout, ça fait encore des quantités de particules gigantesques dans n'importe quelle petite boîte que vous pouvez avoir en laboratoire. Mais il se trouve qu'effectivement, si on prend un satellite ou si on va encore plus loin dans l'espace, dans le milieu intersidéral, là on commence à avoir un vide dont on pourrait dire, ben voilà, on a vraiment du vide. Essentiellement, je crois que, je n'ai plus les chiffres exactement en tête, mais dans le vide intersidéral, on a quelques protons et quelques électrons par mètre cube. Bon, alors on pourrait se dire, j'arrive avec une petite boîte, je me débrouille avec, si cette boîte est suffisamment petite, un peu plus petite qu'un mètre cube, je vais trouver avoir une petite boîte où il n'y aura rien du tout, il n'y aura pas de particules. Et donc c'est ça mon vide. Donc ça serait le vide classique. Je peux imaginer, bon, à l'époque, évidemment, du 19e, on ne savait pas aller dans l'espace, mais enfin, aujourd'hui, on pourrait se dire, voilà, le vide classique, on saurait même aller le voir, enfin, aller l'approcher. Il est dans le vide intersidéral, entre les galaxies, à condition de faire des boîtes pas trop grandes, et ben on n'a pas de particules. Mais ça ne marche quand même pas, parce que à l'extérieur de cette boîte, il y a des particules, hein, bien sûr, il y a des protons et des électrons. Et lorsque les protons et les électrons bougent, et tout bouge dans l'univers, hein, parce que ce n'est pas possible autrement, eh bien, ça émet de la lumière. Attendez, j'y arrive quand même. Donc, voilà, ici, vous avez une sorte d'électron. On voit la flèche, là? Oui. On voit, par exemple, un électron qui bouge, hein, puisque tout bouge, eh bien, il va émettre de la lumière qui se propage dans toutes les directions, et notamment, il y aura forcément de la lumière qui traverse la boîte. Et comme il y a des particules partout, cette lumière se propage à l'infini, et donc on imagine bien que l'univers est rempli de radiation, effectivement, d'ailleurs, maintenant. Alors, à l'époque, on ne le savait pas vraiment, mais maintenant, on le sait, hein, il y a une radiation. La radiation qui domine, c'est la radiation du Big Bang, et tout l'univers est rempli de radiation. Donc, la petite boîte illusoire où il n'y avait rien du tout, c'est vrai qu'il n'y a pas de particules de matière, mais il y a de la radiation. Donc déjà, ça, on se disait, bon, ben, il y a un petit problème, effectivement, pour se dire, c'est pas vraiment vide, puisqu'il y a de la radiation partout. Alors on pourrait imaginer, faisons une boîte avec des écrans, et métallique, par exemple, ça ne laisse pas passer la lumière, et là, il n'y aura plus de radiation. Mais c'est pas vrai non plus, puisque, même toujours au sens, pas tout à fait classique, mais presque classique, vous savez que n'importe quelle paroi portée à une température rayonne. Alors c'est pas de la lumière visible, mais rayonne. Bon. Et donc votre paroi, elle rayonne, et donc votre cube sera toujours rempli de rayonnement. Donc vous voyez bien que ce mode classique montre que le vide, eh ben, c'est impossible de le réaliser. Il y a toujours du rayonnement. Et qui plus est, non seulement c'est pas possible de le réaliser, mais par contre conceptuellement, on peut avoir l'idée de vide classique en sens, bon, c'est un vide où il n'y a pas de matière, il y a du rayonnement. au sens classique du terme, le rayonnement c'est complètement différent. Bon, on a quand même déjà un vide où il n'y a que du rayonnement. Mais il y avait encore un autre problème qui ne marchait pas, même avec ça. On pourrait dire, bon, on a une certaine forme de vide, pas de matière, on n'a que du rayonnement, bon, on a un peu de rayonnement. Mais ça ne marchait quand même pas parce qu'on se disait comment le rayonnement peut se propager dans le vide. Pour la physique classique, vous savez que le son se propage dans la matière, et sans matière, il n'y a pas de propagation. Et on n'imaginait pas que la lumière qu'on voit se propager dans l'eau, dans l'air, puisse se propager sans avoir un milieu sous-jacent qu'elle fasse vibrer et que ce soit la vibration qui conduise à la propagation comme des ondes dans un milieu. Et donc, à l'époque classique, on pensait qu'en plus, non seulement un vide en absence de rayonnement, le rayonnement devait être là, mais il devait même y avoir forcément un support matériel pour que la lumière puisse se propager dans votre boîte vide. C'était le concept d'éther qui était dominant à la fin de la physique classique, en disant que finalement, même cette boîte-là, elle doit contenir une espèce d'éther, puisqu'on sait que dans le vide, la lumière se propage, et donc le vide n'est pas vide, il doit y avoir un éther qui fait que la lumière, par ses champs électriques, excite l'éther et se propage comme une onde. On avait bien vu, en plus, que la lumière se propage avec une certaine vitesse. Ce n'est pas instantané, hein. Je reprends. Donc, il y a une certaine vitesse qui était associée à la lumière, et donc on se disait c'est la vitesse de la propagation des ondes dans l'éther. La théorie de la relativité a bouleversé ça parce que on voit bien qu'il y avait une contradiction. Par un petit raisonnement, on peut le comprendre. Il y a une vitesse donc de la lumière dans l'éther, cette vitesse. Les lois de composition des vitesses dans la mécanique classique, si vous aviez un électron qui court après cette lumière, eh bien, il devrait voir cette lumière s'éloigner de lui moins vite qu'un électron qui s'éloignerait du point d'émission de la lumière. Donc on pourrait imaginer que si on courait assez vite, on pourrait presque rattraper la lumière. Mais ceci dit, vous savez qu'on peut faire des changements de repères en physique classique, et si on court à ce moment-là plus vite que la lumière, eh bien, on va avoir un paradoxe, parce qu'on verra que le point qui reçoit la lumière le reçoit avant même que la lumière ait été émise. Et donc, ça violait la causalité. C'est-à-dire qu'un phénomène qui est déclenché par un électron qui émet de la lumière, qui va ensuite exciter l'électron suivant, si vous courez suffisamment vite, plus vite que la lumière, eh bien, vous verrez le phénomène en sens inverse. Comme il n'y a pas de repère absolu dans l'univers, vous pouvez être dans n'importe quel repère, les lois de la physique sont les mêmes, la causalité est bouleversée. Et donc, la disparition de l'éther avec la mécanique relativiste est allée de pair avec un bouleversement complet dans la composition des vitesses, c'est la théorie de la relativité d'Einstein, à savoir que la vitesse de la lumière, c'est une vitesse limite, qui est finie, mais qui est la même dans tous les repères. Vous avez beau courir après la lumière, elle s'éloigne toujours à la même vitesse, 300 km par seconde. Et c'est quand même difficile. Donc ça, c'était la fin de la physique classique, parce que vous courez après un objet qui se déplace, et non seulement vous ne le rattrapez pas, mais il s'éloigne toujours à la même vitesse. Donc avec ce bouleversement, la causalité était rétablie, quel que soit le repère où vous regardez deux phénomènes, un phénomène qui est l'émetteur de la lumière et l'autre phénomène qui va recevoir cette lumière, eh bien vous avez toujours le premier qui précède le second. Donc la causalité avec la relativité est respectée. Et l'éther, du coup, disparaît aussi parce que, donc ça c'est la théorie de Maxwell, on montre que la lumière correspond à des propagations de champs électriques et de champs magnétiques dans le vide, qui possèdent cette propriété intrinsèque de se propager de telle manière que dans n'importe quel repère, la vitesse est la même. Donc la théorie de la relativité d'Einstein, le passage de la mécanique classique à la mécanique relativiste, a d'une part, ça c'est satisfaisant, rétabli la causalité, évacué l'éther, mais au prix d'un bouleversement complet dans les relations entre l'espace et le temps, c'est-à-dire que les lois de composition des vitesses ne sont plus les mêmes. Bien sûr, en plus, il y a cette conséquence qui sort directement de cette théorie, qui est l'équivalence énergie-matière, E égale mc2, hein, je ne vais pas encore vous le rappeler, c'est l'équation la plus connue, il y a une équivalence entre l'énergie et la matière. Et donc là, cette fois-ci, la notion même de vide, tout à l'heure je vous avais dit que le vide classique, bon, on pouvait au moins se débarrasser de la matière et n'avoir que du rayonnement, c'est-à-dire de l'énergie pure, ben, il n'y a plus en théorie de la relativité, cette énergie pure peut se transformer en matière, puisque vous pouvez avoir des collisions de lumière-lumière qui vous fassent des particules, et il y a une équivalence totale entre la masse et l'énergie. Et donc la fameuse boîte qui contient de l'énergie de radiation, c'est pas différent radicalement de la matière, puisqu'il y a une équivalence énergie-matière. Donc le vide est de plus en plus abstrait. Il n'est pas question de faire quelque chose de vide en théorie de la relativité. Tout rayonne, l'univers est rempli de rayonnement et de matière. Et en tout cas, le rayonnement, en plus, a une énergie qui est équivalente à celle de la matière. Donc la seule conception qu'on peut avoir du vide, c'est un espèce de milieu sous-jacent que conceptuellement on pourrait imaginer, mais imaginer, simplement concevoir. On ne peut pas le voir, il n'y a aucun endroit où il y a du vide. On peut le concevoir en se disant, bon, s'il n'y avait aucune particule dans l'univers, globalement, ça serait un univers vide. On peut imaginer un univers vide, ça fait partie des univers possibles, où il ne se passe rien du tout, sans matière et sans énergie. Donc ça serait encore pensable en théorie de la relativité. Les lois de la physique existeraient, mais l'univers serait vide. C'est un des scénarios qui existe dans la théorie de la relativité d'Einstein. Alors ensuite vient la mécanique quantique. Et donc les fluctuations quantiques. Alors là, ça va rajouter encore un élément supplémentaire. C'est que la mécanique quantique vous rajoute encore ce qu'on appelle les relations d'incertitude, pour être simple, hein, bien sûr, il y a derrière tout un formalisme. Essentiellement, c'est que si vous regardez... La nature des choses dépend du temps que vous mettez à les regarder. Donc c'est un peu comme un appareil photo, vous faites des flashs de plus en plus. Vous avez passé d'abord à la seconde, au dixième de seconde, au centième de seconde, au millième de seconde, à la nanoseconde, la picoseconde, 10-15 secondes, 10-21 secondes. La mécanique quantique vous dit que plus les flashs sont courts, et plus vous pouvez vous permettre, pendant cette petite durée, de violer un des principes sacro-saints de la physique classique et de la théorie de la relativité, qui est la conservation d'énergie. C'est-à-dire que vous pouvez jouer avec l'énergie, mais à condition de rester à l'intérieur d'une relation, c'est-à-dire que vous pouvez d'autant plus faire des écarts à la conservation de l'énergie que vous regarderez de manière par des flashs de plus en plus courts. Alors la relation, c'est que c'est delta E, delta T, plus grand qu'une constante qu'on appelle la constante de Planck. Donc plus delta T est petit, et plus vous pouvez permettre d'avoir un delta E, c'est-à-dire une variation d'énergie, grande. Et donc, si vous regardez donc, notre vide, maintenant prenons un petit morceau d'espace, soi-disant vide, même imaginons conceptuellement que vous soyez dans un univers vide, où il n'y a pas de matière et d'énergie, si vous regardez très, très, très rapidement, vous pouvez vous permettre de créer, d'avoir dans cet espace, pendant un temps très court, d'avoir des fluctuations d'énergie très grandes. Et comme E est égal à MC2, eh bien, vous pouvez avoir ce grand delta E, pour avoir un petit delta T, qui devient des particules, parce que le E peut se transformer en matière, et vous donner des particules, des électrons et des positrons. Bon, il faut, par exemple... Voilà, donc ça c'est une série de fluctuations quantiques. Donc en un point, vous avez une paire électron-positron qui est créée là et qui va s'annihiler un peu plus loin. Tout ça doit durer pendant un temps très court. Évidemment, c'est une violation de la conservation d'énergie puisque vous créez de la matière, un électron et un positron, et vous l'annihilez après. Ici, vous avez deux photons, par exemple, que vous créez qui se réannihilent ensuite. Et donc vous voyez que plus vous observez le vide avec des flashs très courts, plus vous allez avoir des fourmillements comme ça, avec des ramifications, en créant des particules de masse de plus en plus lourde, plus le temps est court. Et vous pouvez, même dans un univers, en partant d'un univers conceptuellement complètement vide, eh bien, animer pendant des temps très courts, en se servant des lois de la physique, animer de toutes les électrons, les protons, les neutrons, et les particules les plus lourdes que vous pouvez imaginer, pourvu que l'instant soit très court. Donc le vide, cette fois-ci, vous voyez que non seulement vous ne pouvez pas imaginer d'avoir du vide dans l'univers actuel, vous ne pouvez même pas imaginer d'avoir un univers conceptuellement vide, puisque si vous croyez simplement aux lois de la physique, eh bien, automatiquement, il se remplira de fluctuations, de fluctuations quantiques. Il se remplit continuellement de fluctuations quantiques. Le vide est plein de fluctuations quantiques. Il fourmille, mais il fourmille pendant des durées très très courtes. Entre parenthèses, maintenant je rejoins la cosmologie. Dans certaines théories récente, qu'on appelle l'inflation, eh bien, ces fluctuations quantiques qui ont peut-être préexisté au Big Bang, ça pourrait être éventuellement, ces fluctuations, vous partez d'un univers vide, il ne se passe rien là-dedans, vous avez simplement les lois de la physique, et puis ces fluctuations quantiques peuvent éventuellement, véhiculer une énergie tellement grande qu'à partir de là, vous transformez ça en un univers réel. Donc ça, c'est un petit peu le concept de ce qu'on appelle l'inflation, c'est-à-dire que cette énergie du vide pourrait avoir, pendant des temps très courts, pourrait s'être transformée en ce qu'on appelle l'inflation, donc en gros le Big Bang, des théories de certaines théories de cosmologie qui vont un petit peu au-delà du modèle standard de la cosmologie. Donc voilà, voilà un univers maintenant, voilà un vide qui est donc un espèce de quasi-milieu, dans lequel, alors on pourrait se dire, bon, quelles sont les preuves qu'on a de ça? Parce qu'on ne peut pas les voir, ces particules. Elles sont virtuelles, comme je vous dis, elles se créent, elles s'annihilent immédiatement. On peut se dire, c'est complètement abstrait. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'elles existent? Eh bien, on pense qu'elles existent parce que lorsqu'on réalise, vous voyez qu'il faut faire des temps très très courts. Hein. Alors, on peut réaliser pendant des temps très très courts les matérialiser. Alors, je vais vous montrer comment on les matérialise. Et c'est ce qu'on fait au CERN, à la Grand Accélérateur de Particules. On envoie deux particules l'une contre l'autre, par exemple un électron et un positron, juste l'une contre l'autre. L'annihilation a lieu pendant environ 10-21, 10-23 secondes. Donc, pendant le phénomène d'annihilation, le milieu sous-jacent dans le vide est plein de petites particules qui fourmillent. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un transfert d'énergie de l'électron et de positron à ce milieu qui fourmille de particules virtuelles pour transformer ces particules virtuelles en des particules réelles. Et donc, c'est comme ça qu'on décrit maintenant une collision de particules. Vous avez donc les deux particules en rouge qui viennent l'une de la droite, l'une de la gauche. C'est des grands anneaux qui font 26 km de circonférence, et on les fait se rentrer l'un dans l'autre. Et l'énergie de l'électron et du positron qui s'annihilent va servir à matérialiser ces fluctuations qui sont ici, qui sont sous-jacentes à la collision. Comme c'est une espèce de flash, la collision ne dure que 10-23 secondes. Hein. Et donc on peut matérialiser ça, et ça vous fait des vraies particules qui sortent de la collision. Si vous prenez deux voitures qui se rentrent l'une dans l'autre, hein, vous avez beaucoup plus d'énergie que lorsque vous faites électron-positron, mais la durée de la collision est tellement longue que là, le delta E est tellement petit que vous n'arriverez à rien à matérialiser de nouveau. Hein. Vous retrouverez les mêmes atomes que lorsque... Bon, vous les trouverez un peu dispatchés partout, mais c'est les mêmes atomes de matière. Avec les collisions de particules qui ont lieu très rapidement, vous pouvez transférer de l'énergie à ce fourmillement du vide et créer des vraies particules. Donc ça, c'est un apport Là, c'est le mariage, cette fois-ci, des fluctuations quantiques dont j'ai parlé à l'instant et de la théorie de la relativité, c'est-à-dire l'équivalence delta E, E égale mc2. Donc vous créez de la masse à partir de ces fluctuations quantiques en se servant, puisqu'il faut quand même qu'à la fin, vous ayez un bilan global d'énergie qui soit conservé, quand vous regardez ça sur une grande durée, eh bien l'énergie de l'électron et de positron vont se retrouver sous la forme de la matérialisation d'un tas de particules qui sortent du vide. Donc on a bien l'impression que les particules réelles, en l'occurrence électrons et positrons, se baladent dans un milieu virtuel, quasi-milieu, de fluctuations quantiques. Et puis de temps en temps, si on fait les choses bien, on peut, par l'annihilation, conférer à ce vide de l'énergie, l'exciter, et donc lui permettre de matérialiser des particules. Et donc là, vous voyez que maintenant, on a une conception du vide qui devient de plus en plus compliquée. D'une part, on a ce fourmillement, ce quasi-milieu, mais en plus, il est sensible aux vraies particules, puisque lorsque les vraies particules se propagent dans ce quasi-milieu, elles transfèrent éventuellement de l'énergie au fourmillement. Donc le vide est lui-même sensible à ce qui existe par-dessus. Hein, si les vraies particules, par exemple, il est sensible à la température de l'univers. Et on n'est pas loin de penser actuellement que les propriétés du vide dépendent de la température. Alors la température, c'est l'agitation moyenne des particules dans l'univers. Hein. Donc les propriétés du vide dépendent de la température de l'univers. Et vraisemblablement, les propriétés du vide n'ont pas toujours été les mêmes à l'époque du Big Bang, où l'univers était très chaud, et ce qu'il est maintenant. On peut même penser qu'il y a eu peut-être des transitions de phase entre ce qu'était le vide, donc ce fourmillement, lorsque l'univers par-dessus était très chaud, si vous voulez, cet univers réel, et ce qu'il est maintenant. Il y a une température actuellement d'environ 2,7 degrés Kelvin, donc très froid. Donc ça rejoint la cosmologie, hein, sans sens que ça rejoint la cosmologie. Et donc encore une fois, je vous dirais qu'aujourd'hui on trouve une certaine énergie au vide. On peut se demander si c'était toujours la même énergie qu'il a eue dans le passé. Est-ce que cette énergie a évolué de manière lentement, c'est ce qu'on appelle la quintessence, ou bien est-ce qu'elle a évolué brutalement lors d'une transition de phase. Dans l'inflation, par exemple, on peut imaginer qu'il y ait une transition de phase qui conduit à une énergie du vide complètement différente de ce qu'elle était juste avant l'inflation. Bien, j'espère que ce n'est pas trop abstrait. Mais j'en arrive vers le bout. Hein. Maintenant, j'en arrive au chapitre « La masse des particules ». Donc là, on assiste en ce moment, mais ce n'est pas confirmé encore par l'expérience. On pense, on a fait pas mal de recherches ces derniers temps, il y a des bonnes indications pour cela, mais ça sera probablement la prochaine génération de grandes machines au CERN qui doit démarrer en 2007, où on fera collisionner des protons contre d'autres protons. On pense, comme je vous l'ai dit, que la masse des particules, alors on pensait que les particules, elles avaient une propriété qui était leur masse, hein, leur masse grave ou bien leur masse inertielle, disons que leur masse inertielle par exemple. Vous savez, la masse inertielle, quand vous avez une particule légère, et bien, il suffit de donner une petite pichenette et hop, elle part très vite. Une particule qui est lourde, si vous donnez une petite pichenette, et bien, elle part pas très vite. Il faut une plus grosse pichenette. Donc ça c'est la masse inertielle. On pensait que c'était une propriété intrinsèque. Le proton est mille fois plus lourd que l'électron. Il y a d'autres particules dans la nature. Il y a les neutrons, bien sûr, mais il y a des particules instables. Il y en a plein. Maintenant, on a tout un zoo d'une vingtaine de particules qui ont des masses très différentes. Alors, on pensait que c'était ça qui était c'était des propriétés différentes des particules. Maintenant, on pense de plus en plus qu'en fait, c'est pas des différences intrinsèques, mais c'est leur manière différente de se propager dans ce milieu qui fourmille, dans ce milieu de fluctuation quantique, qui est le vide. Donc vous avez ici les petites boucles dont je vous ai parlé. Alors j'ai rajouté des flèches qui vont dans le même sens, parce que la nouvelle idée qui est arrivée maintenant, et qu'on pense solide maintenant, c'est que non seulement c'est un fourmillement désordonné, mais il y a une sorte de polarisation quand même qui existe dans le vide à travers une des particules qui se comporte en étant toutes parallèles. C'est ce qu'on appelle les particules de Higgs qui correspondent à ce fourmillement, mais qui se polarisent toutes dans une certaine direction. Et c'est elle qui, lorsqu'une particule se propage, donne une certaine viscosité au vide, et qui fait que chaque particule va avoir une viscosité un peu différente, et donc avoir une masse différente. Et cette idée, de nouveau, est connectée à la cosmologie. C'est un peu comme le ferromagnétisme. Vous savez que si vous prenez du fer doux, à faible température, spontanément, tous les petits dipôles magnétiques, c'est-à-dire les électrons qui tournent autour des noyaux, vont s'aligner pour que le champ magnétique soit non nul dans le milieu ferromagnétique, à très basse température, et donc vous avez un aimant permanent. Si vous chauffez ça, eh bien, ça s'agite, et vous perdez le magnétisme de votre fer, parce que les dipôles se mettent dans tous les sens. Et donc ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure, on a une température très basse pour le vide, on pense que les particules ont une masse parce qu'il y a cette espèce de polarisation du vide liée à ce qu'on appelle le champ de Higgs, donc les particules de Higgs. Si on remonte à plus haute température, et on sait que ce n'est pas une illusion, puisque à très haute température, l'univers a connu une phase à très haute température. On peut d'ailleurs peut-être simuler ces très hautes températures en laboratoire avec les collisions de noyaux. Eh bien, cette polarisation a disparu, et donc les particules avaient à l'origine une masse nulle. Donc maintenant, on se retrouve avec un schéma dans lequel, à l'origine, toutes les particules avaient une masse nulle, et ça n'est qu'au cours du refroidissement de l'univers par les propriétés du vide, et notamment cette espèce de polarisation des fluctuations quantiques, que les particules commencent à acquérir des masses. Le vide a donné une viscosité différente suivant la nature des particules, et donné à l'électron des masses très différentes de celles des quarks, par exemple, puisque vous savez que le proton n'est plus une particule élémentaire, maintenant ce sont les quarks qui sont les particules à l'intérieur du proton qui sont élémentaires. Les quarks ont des masses très différentes de celles des protons. Donc voilà où on en est. Alors bien sûr, on essaye de mettre en évidence, de matérialiser ces fluctuations quantiques liées au Higgs pour faire des vrais Higgs. Hein, jusqu'à présent, on a vu que des Higgs virtuels, et c'est à travers des interactions virtuelles qu'on pense qu'il y a ce mécanisme-là. Et donc l'idée, c'est de faire des collisions de protons-protons de très haute énergie au CERN à partir de 2007 pour, à partir du vide, matérialiser une particule de Higgs, hein, et la voir vraiment. Peut-être que c'est faux, hein. C'est pas garanti que ce soit juste. Hein. En tout cas, il y a une course dans le monde. Je peux vous dire que actuellement, jusqu'à il y a 2-3 ans, c'était le CERN qui avait le leadership avec une machine électron-positron. Maintenant, ce sont les Américains qui ont pris un peu le leadership jusqu'en 2007. J'espère qu'ils ne verront pas l'UX, ça serait dommage pour nous. Et j'espère qu'à partir de 2007, lorsqu'on démarrera notre nouvelle machine en Europe, hein, vous savez que tous les pays européens sont associés à cette recherche au CERN, on découvrira l'UX. Entre parenthèses, je fais une digression, le CERN au début a été donc construit par les pays européens de l'Europe de l'Ouest, hein, les pays riches. Petit à petit, c'est ouvert à l'Europe de l'Est. Et maintenant, pour la machine de 2007, il y aura non seulement l'Europe, mais également les États-Unis, le Japon et la Russie. Et de plus, ce que je trouve un succès quand même, j'en profite pour le dire, il est en train d'attirer énormément de pays du Sud, ce qui est quand même bien. Ça montre qu'il y a une attraction de la science universelle vers les pays du Sud. Et on trouve dans les expériences autour du LHC des pays aussi différents politiquement, culturellement, même religieusement, que actuellement le Maroc est le dernier à être rentré, mais il y a l'Inde et le Pakistan, il y a la Turquie, il y a Israël, et tout ça collabore pour essayer de rechercher cette particule de Higgs. Donc on voit bien quand même que la science fondamentale est capable de rassembler au-delà de toutes les différences qui sont quand même des barrières terribles. Et dans cette communauté, donc c'est une vaste communauté scientifique, c'est pas la première fois qu'on voit la science se rassembler. Hein. Le CERN a joué un rôle important au moment de l'Union soviétique dans les rapprochements entre les scientifiques de l'Est et les scientifiques de l'Ouest. Mais ce rapprochement là maintenant avec donc pratiquement la Terre entière, pour moi c'est quand même hautement symbolique puisque ça permet de montrer qu'on est capable quand même de créer un socle de solidarité entre scientifiques basé sur le rationnel. Et à mon avis ça contribue quand même à une sorte de sécurité du monde, j'espère. De plus, à l'intérieur de ces expériences, bien sûr qu'il y a des grands débats, tout n'est pas unanime, hein, il y a des grands débats. C'est vrai que chacune des expériences qui cherchent le Higgs, hein, 1500 personnes, il y a 35 pays pour chacune de ces expériences associées. Il y a des grands débats, mais les débats ont lieu entre les scientifiques et ça n'est pas du tout les lignes de démarcation ne sont pas du tout les nations. Ce sont des. Bon, il y en a un qui pense qu'il faut faire le détecteur comme ça, il y en a un qui pense qu'il faut faire le détecteur comme ça. Et ça traverse, c'est complètement fractal, ça traverse un petit peu toutes les frontières et pas spécialement les clivages religieux ou les clivages politiques ou même régionaux. Voilà, donc ça c'est une parenthèse pour la science, ce genre de science. C'est pareil pour l'astrophysique, hein, je pense que c'est les deux sciences qui vont un peu de pair, la cosmologie, la physique des particules, comme je dis ici. C'est des sciences qui maintenant attirent tout le monde. L'Iran est très actif en cosmologie aussi, enfin très actif. Elle s'intéresse à ça. Et c'est quand même, pour moi, c'est quand même un élément important de cette science. Il faut bien voir que là, on a l'impression qu'on fait des spéculations, mais quand même, derrière, il y a des vérifications expérimentales, il y a une méthode de rigoureuse et une méthode scientifique qui est très différente des méthodes spontanées ou simplement des discours. Hein. Ce n'est pas simplement des discours. Derrière, il y a toute une méthodologie que, bien entendu, je simplifie à l'extrême. Enfin, vous voyez bien quand même le passage de la physique classique à la physique de la relativité à la mécanique quantique. La mécanique quantique, ce n'est pas simplement des spéculations. La vie de tous les jours est empreinte à la mécanique quantique. La relativité, bon, E égale MC2, hein, c'est quand même le principe de la fission nucléaire et des réacteurs nucléaires. La fusion aussi, c'est également la fusion dans les étoiles, c'est également E égale MC2. La théorie quantique des champs relativistes aussi a maintenant énormément de preuves expérimentales sur les raies de l'atome d'hydrogène et des choses comme ça. Bien, donc voilà où on en est pour la théorie pour la masse des particules. Et on pensait que ça allait rester comme ça, avec ces petites spéculations sur l'énergie du vide. Mais elles apparaissaient assez ésotériques, les spéculations sur l'énergie du vide, dont je vous ai parlé en parlant de transition de phase éventuelle, parce qu'on se disait finalement la physique n'est sensible qu'à des différences d'énergie. Le niveau minimum, bon, on peut définir le vide comme puisque le vide est plein, on le définit comme le niveau, l'état d'énergie minimum. C'est la seule définition qu'on peut avoir maintenant. Hein. Donc, c'est l'état d'énergie minimum. Mais est-ce que ce niveau minimum a un sens? Nous, ce qu'on voit, c'est des différences d'énergie pour appliquer la conservation de l'énergie. Alors, on pensait que c'était vrai, ça, et qu'il n'y aurait aucun moyen d'accéder à cette énergie minimum du vide. C'est pas vrai, parce que la gravité, dans la théorie de la relativité générale, elle est sensible à toutes les formes d'énergie. Vous savez que la lumière s'incurve, c'est de la géométrie, hein, c'est la géométrie de l'espace, hein, qui a une distorsion à cause de la présence de matière. La distorsion extrême, c'est les trous noirs, hein, où vous faites un espèce de puits sans fond. Mais la lumière elle-même qui suit donc des géodésies, qui suit soi-disant des lignes droites, eh bien en fait, elle se courbe lorsqu'elle passe près du Soleil, d'une masse, près d'un endroit où il y a de l'énergie. Et lorsqu'on regarde la lumière se propager sur des distances très 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 grandes, c'est les supernovae de type 1 que l'on regarde, eh bien ce qu'on voit, c'est que la lumière suit une géodésie qui n'est pas une droite, hein, c'est pas celle que vous attendriez d'un vide où il ne se passerait rien, et on est obligé de faire appel à une énergie du vide. Alors c'est là quand même on a plusieurs problèmes avec cette énergie du vide, ce qu'on appelle aussi la constante cosmologique dans la théorie d'Einstein. C'est que maintenant, pour comprendre la propagation de la lumière depuis les temps primordiaux de l'univers, ou pour comprendre la courbure de l'univers, on est obligé de faire appel non seulement à de l'énergie du vide, mais également à de la matière noire, sous forme probablement de particules élémentaires que l'on ne connaît pas, que l'on n'a pas découverte encore. L'énergie du vide, on ne sait pas encore vraiment d'où elle tire sa racine. Alors c'est peut-être de ce mécanisme de Higgs dont j'ai parlé, ou bien de ces fluctuations quantiques. Néanmoins, on a deux problèmes, c'est que pour rendre compte de toutes les observations, on doit faire appel à de la matière noire, des particules qui n'existent pas, et à une énergie du vide qui représente quand même l'énergie dominante dans l'univers. C'est possible que ce soit ça la réalité, mais lorsqu'on fait des calculs pour essayer, à partir des théories actuelles, de prévoir à quelle énergie du vide on s'attend, on n'y est pas du tout, on est loin du compte, il y a 120 ordres de grandeur, comme on dit, au point qu'on peut se demander si ce schéma général n'est pas en train d'atteindre ses limites. Il y a beaucoup de phénomènes qui paraissent assez artificiels, qui font appel donc à cette matière noire, à cette énergie noire, et on commence à se demander si on n'est pas à la veille d'une révolution en physique, comme on l'a été à la fin de la physique classique, on a fait appel à l'éther, à des choses de plus en plus exotiques, pouf, on est passé à la relativité. Après, avec les niveaux de l'atome d'hydrogène, qui n'étaient pas compris non plus, pof, on est passé à la mécanique quantique. Donc là, est-ce qu'on n'est pas en train, bien qu'il y avait des théories extrêmement artificielles qui essayaient de reproduire ça, est-ce qu'on n'est pas en train d'atteindre les limites du jeu, et est-ce qu'on n'est pas à la veille d'un bouleversement important? Alors soit c'est un bouleversement important, soit il faudra vivre avec cette énergie du vide, qui est peut-être donc la constante cosmologique, mais pour lequel on a quand même des interrogations multiples, et ça soulève à la fois de l'enthousiasme, l'énergie du vide, la matière noire, beaucoup de recherches, mais à la fois certaines inquiétudes sur la validité de... Est-ce qu'on n'est pas devant un mur de la physique? Donc ça, c'était l'exposé en général. Je vous montre quelques images d'instruments, parce que quand même, c'est pour vous montrer qu'il y a des instruments derrière, d'instruments qui vont approcher ces questions-là dans le futur proche. Donc je vous en montre trois, hein. L'IAP dans deux d'entre eux, l'Institut d'astrophysique d'ici. Donc je vous montre d'abord, voilà, ça c'est des collisions de particules telles qu'on peut les simuler sur ordinateur, donc c'est vraiment le fourmillement du vide, là vous le voyez quasiment imagé, c'est-à-dire que c'est les collisions qui, à partir du vide, sortent un tas de particules, et là-dedans il va falloir essayer de trouver la particule de Higgs. Donc ça c'est pour 2007, ça se passe au CERN, et je vous montre le dessin de la machine, hein, c'est quand même gigantesque, hein. Vous voyez que le cercle qui est ici, bien sûr c'est une machine souterraine, donc le cercle a été représenté là, ça passe, donc c'est vers Genève, hein. Ici vous avez le lac Léman, vous avez le Jura, enfin ça passe sous l'aéroport, entre le Jura et les Alpes, c'est quand même une machine très très grande, hein, 26 km de circonférence, et qui verra le jour donc en 2007. Actuellement, d'ailleurs, je vous invite à visiter le CERN, c'est en plein chantier, et les détecteurs commencent à s'assembler, tout est ouvert, c'est vraiment le moment d'y aller. Hein. Et il y a un service de visite tous les samedis matins, et si vous voulez voir les choses, vous pouvez s'adresser à moi, éventuellement je peux vous faire une visite personnalisée le vendredi, avant le samedi matin. Donc voilà pour la physique des particules, donc essayer de comprendre mieux, de manière à travers l'infiniment petit, mieux comprendre les propriétés du vide, de l'infiniment petit. Alors, le vide, donc je vous avais dit que l'univers était rempli de rayonnement. Donc ce rayonnement, il a été découvert il y a déjà longtemps, par Penzias et Wilson, dans les années 60. Et ce qu'on a vu aussi, en regardant de plus près, donc ça, au début ça a été le satellite Kobe, il y a déjà maintenant probablement une vingtaine d'années, on a pu voir dans ce rayonnement primordial des fluctuations, lesquelles fluctuations, évidemment, là, il n'y avait pas une résolution terrible, mais on pense que ces fluctuations d'une part, pourraient être des indications de la fameuse inflation dont je vous ai parlé, et en même temps être les germes des structures que l'on voit partout dans l'univers, puisque vous savez que l'univers est très inhomogène. À cette époque-là, donc ça c'était la vision de l'univers à ses tout débuts, il était relativement homogène, mais il avait déjà des petites fluctuations qui, sous l'effet de la gravité, ont cru. Depuis, donc, il y a eu un satellite beaucoup plus performant, qui est WMAP, qui a annoncé ses résultats il y a un an. Et donc, vous voyez cette carte-là, qui est compatible avec celle-là, mais avec une résolution beaucoup plus grande, qui permet de voir, cette fois-ci, des fluctuations avec une résolution bien meilleure. Et on pense qu'avec Planck, qui est donc le grand projet qui va démarrer aussi en 2007, je crois, dans lequel il y a paix, on devrait avoir l'ensemble de la vision de toutes les fluctuations et comprendre un petit peu d'où l'on vient, si on peut dire. Ça serait les fluctuations primordiales. Donc ça c'est le satellite Planck. Et je vous ai parlé des... Donc voilà le satellite, à quoi il ressemble. Je vous ai parlé des supernovas et de la manière dont on essaye de repérer des supernovas très lointaines et de regarder comment la lumière nous est parvenue et en déduire des choses sur la géométrie de l'univers. Alors, le phénomène est simple, hein. D'abord, comment on détecte une supernovae ? Là, ici, vous avez l'image telle qu'elle est vue du sol. Hein. Pour l'instant, c'est fait du sol. L'image d'un champ dans le sol. Vous faites attention à ça. Vous prenez ça, c'était 3 semaines avant que la supernova ait éclaté. Ça, c'est au moment où la supernova est... un peu après que la supernova ait éclaté. On pourrait se dire, bon, il n'y a pas grande différence. Mais si on fait la différence des deux images, on trouve effectivement qu'il y a une étoile qui a brillé beaucoup. Et on essaie de... Donc, on mesure la... plus compliqué pour l'univers, pour l'espace à 3 dimensions, que simplement un 1 sur R2, et 1 sur la distance au carré. Et c'est ça qui nous conduit à dire que la lumière subit les effets de l'énergie du vide. Bien, la prochaine étape de ce projet, la grande étape, la suivante, c'est d'essayer de faire ça à partir d'un satellite. Il se trouve que pour cette supernovae, que je vous ai décrite là. Donc ça, c'était les 3 images dont je vous ai parlé. On a pu l'observer par le Space Telescope. Et là, vous pouvez voir que c'est autrement plus joli, hein, le petit point lumineux. Et c'est nettement plus précis. Et donc maintenant, l'idée, ça serait de chercher ces supernovae depuis l'espace. Donc c'est ce qu'on appelle JEDM, Joint Energy Dark Mission, un truc comme ça. Donc c'est plutôt Joint Dark Energy Mission, j'en sais rien. Donc c'est sur l'énergie noire que cette mission donc, qui va être lancée, je pense, dans les années 2012, par là. Je pense qu'il y aura des gens, des Français qui participeront. En tout cas, de l'INDP3, il y en a. Dans Planck aussi, il y en avait, j'ai oublié de vous dire. Mais là aussi, il y en aura. Et je pense qu'il y en aura aussi de l'Institut d'astrophysique de Paris, parce qu'en plus, ces images seront superbes pour rechercher des effets de distorsion gravitationnelle, en général, dues à la matière, pas seulement dues au vide, mais il y a également des distorsions qui sont dues à la matière noire. Et le même satellite devrait pouvoir à la fois mesurer la matière noire et mesurer l'énergie noire. J'ai oublié de dire qu'avec Planck et avec ce rayonnement à 3 degrés que l'on détecte maintenant de manière précise, on arrive aussi, pas avec une très grande précision, mais on arrive quand même à mesurer, notamment avec WMAP, et encore mieux avec Planck, là probablement on y arrivera au pourcent, à mesurer la quantité d'énergie noire et de matière noire. Donc on verra bien s'il y a un accord sur la quantité de matière noire et d'énergie noire que l'on mesure à partir du rayonnement à 3 degrés et la quantité de matière noire et d'énergie noire que l'on peut mesurer à partir des supernovae. S'il y a un accord formidable, ça veut dire quand même que ça a l'air d'être solide, cette théorie-là. Si par contre ça ne donne pas les mêmes résultats, eh ben, ça voudra peut-être dire que tout ça, il faut le reconsidérer et il y a un décalage, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Et je suis incapable de prédire s'il y aura un accord entre ces deux approches ou s'il y aura une différence. Il y a encore d'autres approches qui existent. J'ai parlé donc de la distorsion par les effets gravitationnels de la matière. Il y a également des approches par les amas de galaxies. Pour l'instant, tout converge, mais avec une précision qui n'est pas extraordinaire. On verra bien si tout converge à l'horizon 2010, par là, 2012 ou 2015, si ça résiste à l'analyse. Si ça résiste, eh bien, il faudra se dire qu'on a une énergie du vide. Bon, alors je ne sais pas qu'est-ce qu'on en fera de cette énergie du vide. J'étais interviewé à Europe 1 dimanche, c'est-à-dire avant-hier, et ils ont démarré le sujet en me disant « Qu'est-ce que vous pensez de ITER ?» Vous savez, ITER, c'est le projet d'essayer de tirer de l'énergie à partir de la fusion de l'hydrogène dans les... De la fusion de l'hydrogène, c'est la même fusion d'hydrogène qui donne de l'énergie dans les étoiles, de la faire en laboratoire. Donc, je leur ai dit, premièrement, que pour l'instant, l'énergie nucléaire, c'était l'énergie nucléaire de fission, c'était l'énergie du 21e siècle. Peut-être que l'énergie de fusion, ça sera l'énergie du 22e siècle. Et qui sait, l'énergie du vide, ça sera peut-être l'énergie du 23e ou du 24e siècle. Bien, en tout cas, pour terminer, donc je voudrais vous dire quand même que c'est un enjeu majeur, hein, c'est pour la science, cette histoire de fluctuation quantique du vide, d'énergie du vide. C'est peut-être ce qui a mis le feu au vide, hein, les fluctuations quantiques lors du fameux Big Bang. Donc c'est peut-être ça, l'étincelle qui a donné naissance à l'univers. Il y a un enjeu conceptuel important et qui peut révolutionner éventuellement à la fois les lois de la physique, si tout ça ne se confirme pas, ou nous donner une image de d'où on vient, et même d'ailleurs d'où on va, parce que ça n'est pas sans influer sur l'avenir de l'univers, cette énergie du vide, hein, puisque ça nous donne un univers en expansion pour l'infini. Voilà, je vous remercie, j'espère que ça n'a pas été trop abstrait.
Merci Michel. Merci. Et maintenant place aux questions pour commencer. Voilà.
Bonsoir monsieur. Merci déjà pour cette super conférence. Une question. Dans le LHC, y a-t-il un risque de micro-trou noir et quelles en seraient vraiment les conséquences?
Bien. Alors oui, c'est une question qui se pose. Alors, je vais. Pour l'instant, le LHC va accélérer des protons, protons. Donc, il va atteindre effectivement des énergies assez considérables, qui sont 7 TeV, c'est-à-dire c'est des milliers de milliards d'électronvolts contre 7 milliers de milliards d'électronvolts. On pourrait se dire, est-ce qu'on sait que ça se fait pendant des temps très courts, est-ce que ça peut faire un mini Big Bang ou un mini trou noir, ou je ne sais pas quoi. Il se trouve que l'astrophysique, encore une fois, vient à notre secours. Parce que malgré cette énergie qui paraît fabuleuse, bien, il se trouve qu'il y a des rayons cosmiques qui nous arrivent sur Terre, on les mesure, hein, il y en a pas mal, qui ont des énergies encore bien plus grandes et qui font des... Bien sûr, ils traversent le milieu intersidéral, et le milieu intersidéral, interétoile ou même dans la galaxie, est plein d'hydrogène. Et donc, les rayons cosmiques, c'est essentiellement des protons. Donc, des collisions proton-proton à des énergies encore bien plus grandes que ça, il y en a sans arrêt, et même autour de nous, et on n'a rien constaté de tel. Donc on peut, à partir du fait qu'évidemment avec les rayons cosmiques, il n'y en a pas suffisamment, on ne peut pas faire des expériences aussi précises, encore qu'il y a des gens qui se tournent maintenant vers les rayons cosmiques pour essayer d'atteindre, voir les lois de la physique à des énergies plus grandes que les accélérateurs. Là, l'avantage d'un accélérateur, c'est qu'on en fera des milliers, des milliards, bien contrôlés en laboratoire, mais dans l'univers autour de nous, ça se passe quotidiennement, et même plus que quotidiennement. Donc pour ça, on est tranquille. Alors c'est vrai qu'on voudrait aller un peu plus loin, et faire des collisions plomb-plomb, pour voir cette fois-ci, alors le phénomène, c'est encore lié au vide, ce qu'on voudrait, c'est, en faisant des collisions plomb-plomb, on a un volume assez important, et on voudrait voir les quarks gigoter et devenir complètement libres là-dedans, et vous savez que les quarks sont toujours enfermés dans le proton, donc là, on voudrait les voir déconfiner, pas dans tout le vide, mais enfin dans un volume un peu plus grand. Alors ça, c'est vrai que des collisions plomb-plomb, je suis obligé de le dire, je ne pense pas qu'il y en ait eu à ces énergies-là beaucoup, dans l'univers, parce que d'abord, des rayons cosmiques de plomb, il n'y en a pas beaucoup, et puis du milieu, il faut encore cogner contre du plomb. Faire-faire, alors peut-être que si on voulait être ultra conservateur, il faudrait faire-faire, parce que ça, faire-faire, il y a dû y en avoir. D'après les calculs, le fer est extrêmement abondant dans les supernovae, et donc il sort avec des énergies très grandes, il rencontre d'autres noyaux de fer. Donc voilà, alors c'est vrai que plomb-plomb, probablement, donc on fera d'abord proton-proton, ensuite on fera peut-être faire-faire, puis si ça ne se passe rien, on fera plomb-plomb. Hein. Voilà.
Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est si il y a des colis, enfin, si y a l'énergie du vide dans les vides qu'il y a entre les atomes de matière.
Ah ben oui, entre les atomes de matière, c'est plein de vide.
Oui.
Et donc, il y a une énergie du vide qui est partout. Elle est partout.
Et même entre les particules d'atomes.
Oui, même entre les particules d'atomes.
Ah oui.
Alors c'est infime, évidemment, parce que on ne voit les effets de l'énergie du vide qu'à très grande échelle, parce que c'est
oui,
en ce moment...
Bien sûr.
Mais elle est partout, elle est présente partout. Les fluctuations quantiques sont présentes dans les atomes même. Oui, et donc, il n'y a pas de raison de penser que c'est partout. C'est uniforme.
Enfin, moi, oui, c'est, la vision, partout,
C'est la vision que l'on a actuellement. Hein. Encore une fois, je vous dis, faites attention à ce que je vous dis, si je ne suis pas Dieu et on peut se tromper.
Première nouvelle.
On peut se tromper, ma parole, mais en tout cas, c'est la manière dont on voit les choses aujourd'hui.
Oui, bonsoir. Pour rebondir sur ce que vient de dire monsieur, entre les particules d'un atome, entre par exemple l'électron et son noyau, on peut dire qu'il y a du vide. Oui. Maintenant, la distance qui sépare l'électron de l'atome, si je ne m'abuse, est bien plus petit que, par exemple, la longueur d'onde de la lumière.
Oui.
Donc, on peut dire que les rayonnements entre les particules sont plutôt réduits à cet endroit-là. Est-ce qu'on peut dire qu'à cet endroit-là, justement, il y a un vide réel ?
Alors non, certainement pas, parce que j'ai oublié de le dire, mais non seulement le rayonnement remplit tout l'univers, mais même la matière remplit tout l'univers. Vous savez que la découverte de la mécanique quantique, la première découverte, c'est qu'à un électron, on associe une longueur d'onde. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de différence entre onde et corpuscule au niveau de la mécanique quantique. La lumière elle-même a un aspect corpusculaire, qui sont les photons, que l'on détecte avec des photomultiplicateurs, où on voit vraiment le photon, mais elle a un aspect ondulatoire. Un électron, il a un aspect à la fois ondulatoire et corpusculaire. Donc l'électron qui tourne autour de l'atome, il remplit déjà tout l'atome lui-même par son onde à lui. Donc le vide est non seulement rempli de rayonnement au sens de la lumière, mais même la matière, les électrons, sont des ondes qui remplissent eux aussi tout l'univers. Donc le vide ne peut se concevoir que conceptuellement, même entre l'électron et l'atome et les noyaux, c'est pas vide. C'est plein d'une onde corpusculaire, d'une onde associée à l'électron et d'onde lumineuse aussi.
Oui, bonjour. L'équivalence masse-énergie, dans le sens masse-énergie, on connaît naturellement. Mais dans le sens énergie-masse, est-ce que ça ne met pas en cause la notion même d'entropie ? Je sais bien que l'entropie est une quantité globale, enfin macroscopique, mais est-ce que le concept d'entropie disparaît ?
Non, il ne disparaît pas. On peut le rétablir en traitant la lumière comme des photons. Et effectivement, avec des photons, donc la lumière, elle a un aspect également corpusculaire. Et lorsqu'on crée de la matière, il faut la considérer comme corpusculaire, c'est-à-dire vous faites photon-photon et vous arrivez à faire et plus et moins. Vous pouvez, à partir de photons très énergiques, bien sûr, pour pouvoir créer des électrons, mais vous conservez l'entropie est conservée dans ce processus. Les photons véhiculent de l'entropie. Correspondent à en gros, l'entropie dans l'univers, c'est le nombre de particules relativistes, et vous avez un nombre de particules qui est conservé. Enfin bon. Le second principe reste valable. On peut traiter ça avec l'entropie. Vous avez un très bon bouquin, celui de Reeves, qui décrit très bien ça, comment vous pouvez décrire l'évolution de l'univers en gardant le concept d'entropie. Même la création des structures qui sembleraient être la création de la complexité dans l'univers qui pourrait s'apparenter à une violation de l'entropie, s'accompagne toujours d'une émission d'un grand nombre de particules, les photons par exemple, lorsque vous avez une transition de phase, qui viennent rétablir le fait que l'entropie ne peut aller que croissante.
Bonsoir. Je voudrais savoir comment s'intègre la théorie du vide dans la théorie des supercordes.
Bon, alors là, vous allez au-delà de... Alors, les supercordes, bien sûr, elles visent... Bon, y a plusieurs... Les grandes questions qu'on a actuellement, on a deux grandes questions actuellement. Hein. On a cette question de l'énergie du vide, qui est une question en soi et dont on s'aperçoit de l'importance, surtout avec les derniers résultats de cosmologie. Et on a une autre question qui est c'est l'unification de la gravité avec la mécanique quantique. Hein, comme je vous ai dit, là, la gravité, je la traitais un peu à part, elle est sensible à l'énergie du vide. C'est une vision géométrique, hein, j'ai essayé d'y faire allusion avec les géodésiques. Par ailleurs, toutes les autres interactions, l'interaction faible, l'interaction forte, l'interaction électromagnétique, sont des interactions traitées par la mécanique quantique, théorie quantique des champs. La relativité résiste à ça. Donc l'objectif des théories des supercordes, c'est d'arriver à unifier la théorie de la gravité et la théorie des autres interactions, super unification, hein, trouver un formalisme commun. En cosmologie, on vit très bien avec la gravité traitée de manière géométrique et les autres interactions traitées autrement. Mais quand même, quand on remonte vers le Big Bang, il y a un moment, lorsque l'univers devient très 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 chaud, on s'aperçoit que là, ça peut plus, on atteint une barrière et on ne peut plus décrire les choses en ayant deux traitements différents de la gravité et des autres interactions. Donc les supercordes vont, si elles aboutissent, elles vont bouleverser le moment, quasiment le moment zéro. Et donc ça peut éventuellement être connecté à l'énergie du vide, puisque par exemple l'inflation, toutes ces choses-là semblent peut-être partir du vide, mais je suis incapable de vous prédire quelle sera d'abord si les supercordes vont arriver à une théorie concrète. Pour l'instant, ce n'est pas encore satisfaisant. Il y a encore plusieurs théories des supercordes, ce n'est pas encore raccordé à des observations réelles. Ceci dit, c'est vrai qu'il y a un grand enthousiasme, c'est de la physique mathématique, hein, c'est très mathématique. Il y a un grand enthousiasme parmi les théoriciens des cordes parce qu'apparemment, ceux qui étaient partis dans des directions différentes au cours des 20 dernières années sont en train de s'apercevoir que finalement, ils décrivent par des différents aspects, différentes manières, la même théorie. C'est un peu comme la dualité onde-corpuscule. Il semblerait qu'il y ait une théorie sous-jacente qui soit bien unique et qui pourrait se révéler être la bonne. Mais ça n'a pas encore abouti. Si ça aboutit, c'est probable que ça révolutionnera à la fois cette problématique de l'énergie du vide et en même temps l'intégration de la gravité à la mécanique quantique.
Oui, en physique quantique, il y a une notion fondamentale qui est la notion de superposition d'états. Est-ce que ça a une répercussion directe sur la recherche du boson de Higgs ?
Alors là, vous me posez une question. Non, je ne pense pas. Le boson de Higgs, donc c'est la matérialisation, c'est une vraie particule que l'on extrait à partir du vide en faisant des collisions. Je ne vois pas la corrélation avec les... C'est vrai que la mécanique quantique, elle a cet aspect superposition d'état. Non, je ne vois pas de relation. Et la superposition d'état, elle joue un grand rôle dans la physique des neutrinos, dont tu m'as fait tout à fait allusion. J'ai travaillé sur ce sujet, ce qu'on appelle les oscillations des neutrinos. Mais pour le Higgs, je ne connais pas d'application directe.
Parce qu'il s'agit d'un boson de Higgs, hein, c'est-à-dire
une
particule messagère.
Donc, oui, mais c'est un aspect secondaire. C'est vrai, c'est un boson, c'est-à-dire qu'il obéit au principe de Bose-Einstein, à la statistique de Bose-Einstein, c'est-à-dire qu'on pourrait les mettre dans le même état. Hein, vous savez qu'il y a deux types de particules, les particules de spin demi-entier, qui sont les particules de matière, parce qu'on ne peut pas les mettre dans le même état quantique, donc ça correspond à un principe d'impénétrabilité. Et puis au contraire, il y a les bosons, comme les photons, qu'on peut mettre dans le même état, par exemple lorsqu'on fait des lasers. Alors le Higgs obéit à la même statistique que les photons, mais il n'y a pas de relation directe avec la manière dont on va le découvrir. On n'est pas prêt de faire des lasers avec des bosons de Higgs pour l'instant. Pour l'instant, on cherche à en voir un. Quand on en fera beaucoup, beaucoup, on pourra essayer de les mettre dans le même état.
Bonsoir, un petit point d'histoire des sciences là. Concernant l'effet Casimir là, qui est peut-être voisin un petit peu de ce que vous évoquez ce soir, je crois me souvenir qu'il avait été prédit, je crois, avant les années 50. Alors je ne fais pas bien le lien dans l'histoire, dans cette période-là, avec les travaux plus récents que vous aviez évoqués.
Oui, alors l'effet Casimir, oui, j'en ai pas parlé. Là j'ai parlé que d'une relation, parce que c'était le plus facile, qui était delta E, delta T. Mais c'est vrai qu'il y a également une relation. Si vous essayez de vous confiner dans un tout petit espace, vous avez également une certaine énergie qui est associée au fait que vous confinez dans un petit espace. Donc un vide confiné dans un petit espace est associé à une forme d'énergie qui est Casimir. Mais je n'ai pas voulu parler de ça parce que ça c'était plus commode. Bon, je ne pouvais pas parler de tout. Et donc j'ai choisi delta E, delta T.
Vous parliez du Big Bang pendant la projection.
J'arrive plus à voir où c'est que vous êtes. Ah oui, ça y est.
Et je veux savoir, quelle était l'idée d'avant Big Bang ? Comment s'est passé le Big Bang ? Vous aviez pas...
Non, tout ce que je peux vous dire, la seule spéculation qui est reliée à ça, c'est que si vous imaginez qu'il existe des lois physiques et un univers vide, ces lois physiques créent des fluctuations quantiques. Et on peut imaginer que des fluctuations quantiques puissent donner naissance à une explosion de type, ce que j'ai dit, hein, c'est le feu qui est mis, ça met le feu au vide. C'est-à-dire que ça pourrait donner localement, cette énergie du vide peut donner lieu à une espèce de Big Bang qui ensuite s'étend et donne l'univers qu'on observe. Si ça, c'était la bonne image, ça veut dire qu'il y a d'autres Big Bang qui ont éclaté. Donc il y a un super univers, beaucoup plus grand que l'univers observable, dans lequel il y a un tas de bulles qui ont été allumées par des... Donc c'est ce qu'on appelle l'inflation chaotique, donc des bulles, des univers qui naissent spontanément d'un espèce de vide sous-jacent infini.
Ça donne un delta E énorme.
Hein, ça donne des delta E énormes. Mais c'est des spéculations. Alors il y a des spécialistes pour ça qui sont très connus. Mais je ne crois pas qu'on puisse dire actuellement qu'on est vraiment avancé. Ah oui, il y aura peut-être des interférences entre ces univers parallèles.
Je vais vous poser une question, si c'est possible, sur l'oscillation des neutrinos. J'ai lu votre bouquin, La lumière des neutrinos. Vous y donnez une explication, mais pour des gens qui ne sont pas des spécialistes, ce n'est pas évident de bien saisir la nature profonde de l'oscillation des neutrinos. En particulier, vous parlez d'états de saveur, neutrinos muoniques, électroniques et toïques, et à côté, états de masse, M1, M2, M3, et puis tout ça se mélange, c'est difficile à saisir pour quelqu'un qui n'est pas dans le coup.
Alors là, il faudrait une heure, mais en tout cas, ça, c'est réellement la superposition d'états, et c'est les phénomènes de mécanique quantique. C'est un peu la même chose que lorsque vous avez, en mécanique quantique, il y a ce qu'on appelle la molécule d'ammoniac, pour ceux qui ont fait un peu de la mécanique quantique, qui peut exister dans deux états, soit avec le N qui est à gauche, l'azote du plan d'hydrogène, soit à droite, et vous avez des oscillations au cours du temps d'un ammoniac qui a son N azote à gauche à l'azote à droite. Et donc, pour les neutrinos, il se produit le même phénomène. Maintenant, il a été observé depuis que le livre a été écrit. Et du coup, on en déduit que les neutrinos ont une masse. Alors là, ça me permet de faire un lien avec ce que je viens de dire, puisque j'ai dit qu'il y avait ce qu'on appelle la matière noire, faite de particules. Et on pourrait se dire que c'est peut-être les neutrinos qui sont candidats naturels, puisque c'est des particules qui se baladent partout, qui traversent la Terre entière, le Soleil, les étoiles. Il y en a plein dans l'univers. Ça a été produit pendant le Big Bang, là encore. Il y en a, je ne sais plus combien, quelques centaines par centimètre cube. Quelques centaines par centimètre cube. Maintenant qu'on sait qu'ils ont une petite masse, ben voilà, au moins on a trouvé la matière noire. Eh bien non, ça ne marche pas. Et ça ne marche pas, on pourrait dire, alors si ça ne marche pas, c'est de combien ça ne marche pas? Ça ne marche pas d'un facteur 100, pas d'un facteur gigantesque. Donc c'est un peu étonnant qu'on a ce mystère. La matière visible est quand même, représente quand même 1%, mettons, de la matière totale. Les neutrinos représentent à peu près autant. Il y a encore une autre espèce qu'il faut découvrir. Il y a l'énergie du vide. Ça commence à faire beaucoup, qui sont tous à peu près au même niveau. Et donc c'est un peu troublant. Je reconnais que c'est un peu troublant. Le fait qu'on a un univers qui est composé d'un tas de choses, qui représente à peu près, à facteur 10 ou 100, vous savez, pour l'astrophysique, 10 ou 100, c'est rien, qui représente un peu la même quantité de masse et d'énergie. Donc il y a quand même une énigme attachée à tout ça. Et comment ça se fait que les neutrinos représentent à peu près la même quantité de matière que les protons et les neutrons, les électrons. Voilà. Et les oscillations sont... Bon, je ne peux pas parler des oscillations là.
L'évolution des fluctuations quantiques, oui. L'inflation.
C'est l'inflation, oui.
Est-ce qu'on a une idée du starter de l'inflation? Qu'est-ce qui aurait déclenché l'inflation?
La seule fluctuation quantique du vide.
Quelle serait la relation entre la couleur du vide et ce qui contient le vide?
La couleur du vide?
Et ce qu'il contient.
Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la couleur du vide? Ben, je ne sais pas quoi dire. Normalement, j'ai tendance à dire qu'il est noir, parce que quand on regarde le ciel, il est noir. Mais je ne sais pas aller au-delà de ça. Et je sais que le ciel est plein de vie. Mais c'est bien, il y a beaucoup de questions, c'est très vivant ici.
Est-ce qu'on peut faire des calculs à partir du fait que l'on dise que l'univers part d'une fluctuation quantique du vide?
C'est l'équation. Oui, si. Bon, donc je vous dis, l'inflation est basée sur une idée de ce genre-là, de fluctuation quantique du vide, au point qu'on prévoit, vous savez, les fameux grumeaux que j'ai montrés dans les cartes primordiales, on pense qu'elles sont dues à l'inflation elle-même et à un spectre de fluctuation qu'on peut nourrir de ce qu'on appelle les fluctuations quantiques du vide. Mais on atteint quand même les frontières de la connaissance. Là, on atteint vraiment les frontières de la connaissance. D'abord, quand même, on attend beaucoup des satellites Planck pour ça. Parce que justement, de voir un petit peu l'échelle de toutes ces fluctuations, ça permettra de mieux saisir si on est dans un régime qu'on pourrait relier à un schéma de fluctuation quantique du vide. Donc c'est un sujet qui est en plein développement, mais sur lequel il n'y a pas de connaissances fermes, si tant est qu'on puisse parler de connaissances fermes un jour ou l'autre.
Voilà, tu vois, on a un public très créatif. C'est très toujours créatif, comme ça, à la grande surprise des orateurs, mais c'est très agréable. Donc,
bonsoir. Juste une petite précision, le boson de Higgs, je n'ai pas très bien compris. Est-ce que c'est un transmetteur ou est-ce que ce n'est pas un transmetteur?
C'est une part... Ah, est-ce que c'est un...
Vous voyez ce que je veux dire?
Au sens de que le photon est un médiateur de... Alors, le photon...
Vous voyez ce que je veux dire?
Je vois ce que je veux dire. C'est vrai que quand on décrit une interaction, par exemple électromagnétique, un électron qui est attiré par un proton ou un électron qui est repoussé par un proton, on dit qu'il y a un médiateur, c'est le photon. Hein. C'est un boson. Le médiateur de l'interaction faible, celle qui est responsable de justement de la fusion de l'hydrogène, ce sont les W et les Z, les fameux que j'ai contribué à découvrir avec Carlo Rubbia. Donc ce sont des médiateurs. Pour l'interaction forte, c'est le gluon. Pour les quarks donc interagissent, ils sont dans le proton, ils interagissent en émettant et en recevant des gluons. Pour l'interaction gravitationnelle, on parle de graviton, on essaie de détecter des ondes déjà gravitationnelles avec Virgo, pour ceux qui en ont entendu parler. Donc c'est une première étape vers les gravitons. Le Higgs, donc c'est un boson, donc en principe ça pourrait être un transmetteur d'une force, oui c'est un transmetteur, c'est une nouvelle force, oui, c'est une nouvelle force. Mais dont les effets n'ont pas encore été ressentis, mais c'est une nouvelle force. Oui, je crois que vous avez raison.
Bon, je vais aller par là et je reviens ici ensuite, si le temps nous le permet.
Merci. Est-ce que les fluctuations quantiques du vide, aujourd'hui on est dans un univers très froid, peuvent expliquer une partie de l'énergie noire ou la totalité de l'énergie noire? Est-ce que c'est une théorie qui a l'air de se développer là-dessus?
Ben oui, c'est ça qu'on essaie de... On essaie de rattacher ces fluctuations quantiques du vide actuel qui est très froid à l'énergie noire. Malheureusement, comme j'ai dit, les calculs actuellement ne marchent absolument pas. Absolument pas, mais quand je dis absolument pas, là, c'est pas un facteur 10 et 100 dont je parlais pour les neutrinos. C'est un facteur des milliards de milliards de milliards de milliards de milliards. Enfin, jusqu'à 10 puissance 120. Donc on a un problème. Là, on attend une théorie plus efficace.
Vous parliez de lien, mais lorsque c'était une très très grande échelle, qu'est-ce qui se passe?
Vous parliez de...
Lorsque vous parliez de liens entre certains, dans l'infiniment petit, mais lorsque... beaucoup plus grand. L'échelle de 30, mettons 30-0, qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il qu'un objet comme, mettons, une chaise ou n'importe quoi puisse exister?
Bon. Ah oui, vous voulez savoir si la fluctuation peut agir sur des objets macroscopiques? C'est ça votre question?
Oui, alors j'ai parlé effectivement de fluctuations quantiques qui ont lieu à l'échelle de pendant 10 moins 25 secondes, donc sur une échelle qui est des milliards et des milliards de centimètres. Alors c'est là qu'il y a la théorie de l'inflation qui intervient. Si dans le schéma dont on a parlé tout à l'heure, c'est l'inflation de ce point qui va conduire, assez rapidement d'ailleurs, à un univers aussi grand que l'on peut l'observer aujourd'hui, même plus grand. Et on arrive par la théorie de l'inflation, donc c'est l'énergie du vide liée à cette fluctuation quantique qui crée une inflation exponentielle, hein, puisqu'elle est exponentielle en l'occurrence, cette inflation, et qui permet très rapidement d'atteindre un univers froid, relativement froid, et très vaste.
Je voudrais savoir, justement, à propos de cette grande inflation, vous disiez qu'il y a comme une sorte de changement de phase, enfin, de nature du vide qui n'est pas la même avant et après. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus?
Alors, non, l'idée est la suivante. C'est le schéma de l'inflation, même original. Hein. C'est que vous démarrez donc d'un point ou d'un espace ou d'un endroit ou éventuellement très vaste, hein, dans lequel vous avez une forte énergie du vide. Ça crée une dilatation, une expansion, comme l'expansion de l'univers qu'on connaît, très rapide, un changement de température très rapide, et cette énergie du vide, au lieu de rester constante, elle reste constante pendant l'inflation, mais vers la fin de l'inflation, elle tombe à zéro, ou presque zéro, et quand elle tombe à presque zéro, l'univers devient, à ce moment-là, évolue comme il évolue actuellement, avec une expansion beaucoup plus lente. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'au lieu de tomber à zéro complètement, elle n'a pas l'air d'être tombée complètement à zéro au moment du Big Bang, elle est tombée à une certaine valeur que l'on retrouve aujourd'hui, que l'on mesure aujourd'hui, elle est tombée à une valeur qui était petite par rapport à toute la matière qui était très agitée par cette inflation. Et donc, on n'a pas vu qu'il y avait de l'énergie du vide. On ne pouvait pas voir qu'il y avait de l'énergie du vide pendant très longtemps. Mais aujourd'hui, cette énergie du vide commence à émerger parce que l'univers se refroidit de plus en plus. Donc, le contenu d'énergie dans la matière devient de plus en plus faible parce que les particules sont de plus en plus lentes, la température est de plus en plus basse. Et l'énergie du vide, maintenant, ressort. mais elle a été beaucoup, beaucoup plus grande juste avant l'inflation, pendant l'inflation, et elle a connu une transition brutale au moment de l'inflation, d'une valeur très, très haute, 120 ordres de grandeur, je ne sais pas combien, jusqu'à presque zéro. Mais pourquoi ce n'est pas zéro? Et pourquoi ce n'est pas resté au niveau de 120 ordres de grandeur du niveau dont elle est partie? C'est ça le mystère. C'est-à-dire qu'on a une baisse brutale par 120 ordres de grandeur de l'énergie du vide. Et au lieu de... Alors d'abord, pourquoi elle est baissée de 120 ordres de grandeur? On ne comprend pas pourquoi. On pourrait se dire qu'elle est peut-être tombée à zéro, rigoureusement, ça serait très bien, mais elle n'est pas tombée à zéro, elle est tombée à quelque chose qui est epsilon de ce qu'elle était au départ, au moment où il y a eu l'inflation. Et donc c'est ça qui n'est pas compris actuellement. C'est exactement une transition, ce qu'on appelle une transition de phase, mais avec une ampleur formidable.
Oui, bonjour. Quand des particules s'annihilent, on voit une gerbe, et je voudrais savoir à quoi vous reconnaissez les particules qui sont créées, la nature des particules créées.
Parce que donc vous faites électron-positron, hein, donc vous avez une machine avec des électrons qui tournent dans un sens, des positrons qui tournent dans l'autre sens, pouf, et les faites arriver l'un sur l'autre comme deux voitures qui se collisionnent de plein front. Ce que vous voyez dans vos détecteurs, donc vous voyez l'électron et le positron qui disparaissent, mais vous voyez un tas de particules que vous pouvez mesurer parce qu'elles sont réelles, ces particules, hein, même si elles ont été extraites à partir de l'énergie du vide, à partir des fluctuations quantiques du vide, par un transfert de l'énergie pour matérialiser ces particules qui étaient virtuelles dans le vide, ces particules deviennent réelles et vous les voyez dans des détecteurs. Alors les détecteurs qu'on utilise, ce sont des détecteurs à la Charpak, pour ceux qui connaissent les chambres Charpak, qui permettent de voir des petites étincelles, des petits courants électriques que ces particules, quand elles sont chargées, font lorsqu'elles passent entre des électrodes qui sont portées à des potentiels différents. Également, lorsqu'elles passent dans ce qu'on appelle des scintillateurs, elles font de la scintillation. Et même dans l'air, elles font un petit effet Cherenkov, ce qu'on appelle un peu de lumière. Donc on les voit réellement, on peut les photographier. On ne photographie pas la particule, on photographie le sillage de la particule dans les détecteurs.
Si. Est-ce que la matière peut être médiatrice du vide? Il y a une expérience de physique qui a eu lieu entre deux... un peu comme l'effet Casimir, entre deux sphères vides dans une soupe d'électrons. Est-ce que, j'ai cru lire que les électrons étaient médiateurs de l'énergie du vide.
Alors je ne peux pas, je ne sais pas, je n'ai pas suivi ça suffisamment. C'est possible que, je sais qu'il y a eu pas mal d'expériences sur l'effet Casimir, mais je n'ai pas suivi en détail les phénomènes qui ont été observés, donc je ne peux pas répondre à cette question. Mais elle est intéressante, mais je ne peux pas y répondre. Je ne peux pas répondre à tout, hein, c'est honnête.
Oui, c'est très bien, non, c'est très honnête. Parfait. Alors, attendez, il y a une question qui était déjà posée depuis longtemps.
L'univers serait en expansion accélérée.
Oui, à cause de cette énergie du vide qui reste et qui ressort maintenant, parce que la température est devenue tellement basse que maintenant, ce qui ressort, c'est l'énergie du vide.
Certains chercheurs disent que, enfin pensent, c'est de la spéculation, bien sûr, qu'on va vers une nouvelle période d'inflation. Qu'est-ce que vous en pensez?
Eh ben oui, mais actuellement, si on en croit les résultats actuels, c'est-à-dire qu'on est de nouveau dominé par l'énergie du vide, on l'avait été au moment de l'inflation, juste au tout début, maintenant on est de nouveau dominé par l'énergie du vide, donc on est reparti sur une espèce d'inflation lente, parce que cette énergie du vide est faible, une espèce d'accélération exponentielle de l'expansion de l'univers. Et effectivement, non seulement on serait en expansion, mais c'est même une expansion exponentielle.
Est-ce que la première expansion a imposé des théories dites de renormalisation, puisque l'univers s'est étendu de façon tout à fait anormale, et qu'en fin de compte, il s'agit presque encore d'une spéculation, c'est-à-dire qu'on n'en a pas véritablement la certitude, tant est qu'elle existe. Si on va vers une période d'inflation, est-ce que vous ne croyez pas qu'on risque de se retrouver devant le même phénomène?
Non, je ne peux pas répondre. Pour l'instant, ce n'est pas une inflation qui est quand même dans les mêmes conditions que le Big Bang. L'inflation dont on parle du Big Bang, elle correspond à une énergie du vide qui était 120 ordres de grandeur plus grande que celle actuelle et qui s'est fait en un flash quasiment instantané. Celle-là, par contre, correspond à une énergie du vide beaucoup plus basse et donc l'inflation est beaucoup plus lente. Donc normalement, elle devrait se poursuivre sans effet spectaculaire normalement. Mais je ne peux pas... Bon, pour l'instant, c'est la bonne envie.
Une dernière question. Oui. Est-ce qu'au LHC, il y aura un pourcentage de temps donné à l'armée? Et qu'est-ce que vous en pensez?
Ah non, oui.
Comme au LMJ.
Ah non, ça n'a rien à voir. Je vous dis, si on associait tous les pays du Nord et du Sud, la Corée, le Pakistan, l'Inde, Israël, la Turquie, ce n'est pas pour faire des essais militaires. Ça, je peux vous garantir
ce
que...
sera simplement scientifique.
Ça sera vraiment de la science universelle. Ça, c'est au moins la garantie que vous pouvez avoir, le mélange même des pays qui y participent.
Oui, je voulais savoir, donc il y a des fluctuations du vide, ce sont des fluctuations d'énergie, je suppose.
Oui.
Est-ce que le spectre d'énergie a une courbe, correspond à un corps noir ?
Alors, le spectre de ces fluctuations, non, ce n'est pas un corps noir. Il y a un spectre de ces fluctuations,
oui.
Et bien sûr, il rejaillit sur la manière dont l'inflation va se faire un peu partout, et il rejaillit sur le fait que, comme le spectre des fluctuations peut varier d'un endroit à l'autre, vous allez avoir des régions qui vont s'inflater plus vite que d'autres, et c'est ça qui donne ces fameux grumeaux que vous avez vus sur les cartes du rayonnement à 3 degrés, que l'on voit aujourd'hui, donc c'est le reste. Après, ça se refroidit après l'inflation, mais on a toujours la trace du fait qu'on a un spectre de fluctuation, de spectre de delta E, qui n'est pas le même, qui a des fluctuations un peu partout. Et c'est ça que vous voyez. Hein. Vous avez une relation, si on croit à l'inflation, une relation directe entre les petits grumeaux que vous avez vus, sur la carte qui doit être encore là, hein, sur cette carte-là, les grumeaux qu'on verra avec Planck notamment, eh bien, ou même avec Kobe, eh bien, ils vous donnent des renseignements sur le spectre des fluctuations. Et donc, c'est un test de l'inflation et du spectre des fluctuations que l'on fait avec WMAP, avec Kobe et avec Planck, certainement.
Il y a une traduction, d'ailleurs, entre ces grumeaux et la taille de ce que l'on observe localement maintenant, oui. Aujourd'hui. Hein. Oui. Ça correspond à des choses qui sont maintenant visibles sous forme de d'amas de galaxies.
Je voudrais revenir sur cette expansion accélérée. Vous avez dit que c'est lié à la température qui baisse. Est-ce qu'il y a une température critique ? Est-ce qu'on peut, on a une idée de cette température critique ? Est-ce qu'il pourrait aussi permettre peut-être de dater quand est-ce que cette période est apparue ?
Alors, pour le vide, au moment de l'inflation primordiale, on pense qu'il y a une température critique de l'ordre de 10 puissance 15 GeV. Température fabuleuse. Hein. Lorsque l'univers est passé. Donc, on a l'inflation avec une énergie du vide colossale. Lorsque l'univers se refroidit au cours de l'inflation et passe en dessous de 10 puissance 15 GeV, à une température qui baisse, il y a une transition de phase pour le vide et son énergie du vide passe de très très haut à ce qu'elle est aujourd'hui. Bon, après, l'univers donc, est très chaud quand même. L'énergie du vide est très basse, la température baisse, elle baisse, jusqu'à ce que finalement, l'énergie du vide finisse par l'emporter sur l'énergie liée à la température de l'univers, puisqu'il y a une relation directe entre l'énergie de la matière qui est liée à sa température, et donc l'énergie du vide, à un moment, au fur et à mesure que l'univers se refroidit, à un moment, l'énergie du vide réapparaît comme la quantité dominante. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, en ce moment, la température continue à baisser, mais l'univers est en accélération, en expansion accélérée, à cause de l'énergie du vide. Est-ce qu'il y aura une nouvelle transition de phase dans le vide ? Donc ça rejoint un petit peu la question qui avait été posée tout à l'heure par un autre auditeur, là, à savoir que est-ce qu'il y aura encore une transition ? J'en sais rien, moi je ne peux pas vous dire. Normalement, quand même, à ces énergies-là, on pense qu'on maîtrise bien la physique, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait des transitions, parce qu'on est dans des domaines que l'on peut reproduire en laboratoire. Hein, 3 degrés, on le reproduit en laboratoire. Le vide actuel, on le connaît bien, et donc on ne pense pas qu'il y aura une nouvelle transition. Mais moi, je peux pas deviner dans la mare de café.
Je voudrais vous poser une question. Je vais en profiter. Simplement, j'ai lu et entendu lors de conférences qu'il existait une énergie repoussante, une matière repoussante.
Ah ben c'est l'énergie du vide, oui. Alors oui, justement, je n'ai pas parlé.
C'était Hubert Reeves qui l'avait dit.
Voilà. Donc l'énergie du vide, elle a un autre paradoxe dont je n'ai pas parlé. Vous savez que pour la matière ordinaire, quand on introduit la notion d'énergie, la notion de température, on a ce qu'on appelle une équation d'état, c'est-à-dire qu'il y a la pression, le volume, la température, tout ça c'est PV égale RT, vous avez dû entendre parler. Également, quand on a un gaz relativiste, il y a un autre type de pression qui est lié à la densité sous une autre forme. Eh bien, pour le vide, pour l'énergie du vide, l'équation d'état, eh bien, elle est paradoxale, ça donne ce qu'on appelle une pression négative, qui n'a vraiment rien à voir avec la physique classique, mais c'est une pression négative, et c'est ça qui vous donne cette expansion accélérée de l'univers. Donc on est dans ce qu'on appelle une équation d'état tout à fait originale, puisque vous avez une, en gros la pression qui est égale à moins l'énergie du vide, hein, dans certaines unités.
Il y a une dernière question.
Alors, ça sera ma deuxième question. Au sujet de l'inflation primordiale, je ne suis pas du tout un spécialiste de la question. Hein. J'ai lu, il m'est arrivé de lire ici ou là, je ne dis pas que c'était forcément de bonnes publications, hein, bon, que c'était une théorie ad hoc pour expliquer certains faits difficiles à expliquer, que je ne saurais pas vous préciser d'ailleurs, et que cette théorie de l'inflation primordiale, pour belle qu'elle soit, n'expliquait pas grand-chose, sinon rien du tout. Qu'est-ce qu'il faut penser de cette idée-là ?
Alors, c'est vrai qu'au départ, c'était une théorie qui expliquait un ou deux phénomènes. D'une part, l'homogénéité de l'univers, quelles que soient les directions, ce rayonnement à 3 degrés quand même. Les petits grumeaux que je montre ici, hein, c'est des écarts en température. Vous savez, la température, c'est 2,7 degrés. Les différences de couleurs, elles représentent un millionième de degré à peu près, hein, un micro-kelvin, hein. Quelques micro-kelvin.
1 sur 100 000.
1 sur 100 000, c'est ça, quelques micro-kelvin. Donc en gros, la température est la même partout. L'inflation, par ce phénomène brutal qui, à partir d'un petit point, pour schématiser, c'est pas un petit point au sens, il faut se méfier quand même des images, hein, vous fait une grosse bulle, très rapidement, permettait d'expliquer pourquoi l'univers était si homogène que ça. Première chose. Deuxième chose, bon, il y avait un certain nombre de particules bizarres qu'on appelle les monopôles, qui ne sont pas présents dans l'univers, et ça permettait aussi d'expliquer pourquoi ils n'étaient pas là. Donc c'était deux observations. L'homogénéité de l'univers dans toutes les directions, c'est la même chose quelle que soit la direction dans laquelle vous regardez, en gros l'univers a à peu près la même allure, et deuxièmement l'absence de monopôle. Mais maintenant c'est devenu plus quantitatif, parce que l'inflation vous fait une prédiction très forte sur la quantité d'énergie du vide plus la quantité d'énergie de matière, la densité d'énergie du vide, plus la densité d'énergie dans la matière. Et celle-là, elle est respectée avec les résultats récents. C'était une prédiction qui date de 20 ans, à 1% près, je dirais. Troisièmement, maintenant, elle vous fait aussi des prédictions sur le spectre des fluctuations. C'est-à-dire ce qu'on a dit tout à l'heure, le fait que ces grumeaux, ils ont des tailles plus avec une espèce de variation d'échelle. Elle vous fait, donc c'est le spectre des fluctuations quantiques. Et ça, c'est en train aussi de se vérifier à quelques pourcents près. Donc ce qui était au départ, c'est ce qu'on disait jusqu'à il y a quelques années, que c'était quand même basé sur une ou deux observations, un peu comme le Big Bang, hein, au début, était basé sur quelques observations. Hein. Petit à petit, il y en a eu de plus en plus, la nucléosynthèse, le rayonnement à 3 degrés, etc. Bon, maintenant, l'inflation, elle commence à rentrer dans un régime quantitatif. Hein, depuis 3-4 ans, il y a des prédictions quantitatives qui ont l'air de quand même de marcher pas mal. Bon, c'est peut-être, je ne sais pas si ça sera là. Ça résistera à l'épreuve du temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, on verra avec Planck et avec... Les missions sur les supernovae et les clusters de galaxies et le weak lensing. Mais pour l'instant, maintenant, ça, il y a quand même 4 ou 5 prédictions, dont 2 sont quantitatives assez précises. C'est quand même pas si mal. C'est la naissance d'une théorie, hein. Elle va peut-être s'écrouler, mais c'est la naissance d'une théorie.
Eh bien, il nous reste encore une fois à te remercier pour toutes ces réponses.
Merci à vous. Hein.
De nombreuses questions. Merci beaucoup.
Merci bien.
D'avoir été capable de faire le lien entre le tout petit et le très grand, tu l'as vraiment parfaitement maîtrisé. Merci, et donc rendez-vous en 2004, hein, le 6 janvier, n'oubliez pas de vous inscrire.